Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque numéro 16, première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Laurence Fraisse. Et bonjour Bertrand Bail.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux responsables de l'Orchestre d'harmonie de Narbonne et vous serez nos invités dans une troisième partie. Je rappelle au passage, comme c'est de coutume dans cette émission, que si à un moment vous souhaitez vous greffer et apporter votre grain de sel sur nos petits sujets, vous serez les bienvenus également. Alors, le sommaire, Michel, ben, cette semaine t'a inspiré largement. Il faut dire qu'elle a été très inspiratrice pour beaucoup de gens qui manient la plume et qui manient le blog. Mais nous commencerons par les résultats des primaires dans l'Aude et dans les PO quand même.
Il faut oui, accessoirement.
D'autant plus que nos deux départements se sont singularisés.
Oui.
Bon. Après quoi, eh bien, pour rester dans le sujet, tu t'étendras sur la floraison de candidatures aux législatives. Ça pousse, c'est bientôt le printemps.
Oui, bien sûr.
C'est
oui.
Logique. Après, un petit sujet sur. Alors, je te cite la dame du préfet qui démissionne de la ville.
Oui.
C'est presque une lettre de Montmoulin d'Alphonse Daudet. C'est pas le sous-préfet au champ, enfin.
Non. Là, c'est madame la préfète.
On n'en est pas loin. Ville, oui. Et puis, la rude vie d'attachés parlementaires, dont on s'est aperçu à quel point la rudesse était énorme dans notre bon pays de France.
Oui, surtout que, bon, cette affaire de Pénélope masque une réalité que peu de journalistes mettent en évidence sur ce véritable métier, entre guillemets.
Oui, voilà. Alors, nous commençons par les résultats des primaires.
Oui, Jean-Claude.
Pas de grande surprise, d'ailleurs, dans nos
départements. Ah, quand même. Si, quand même. La surprise, tout le monde l'a constaté, ou presque, apparemment, sauf toi, Jean-Claude, c'est que notre département de l'Aude, département de l'Aude, a choisi au deuxième tour de la primaire dite citoyenne, Manuel Valls,
oui.
Plutôt qu'à moi.
Déjà fait des scores au premier tour.
Oui, mais peut-être, d'autres départements aussi, mais sauf qu'au second tour, notre département est celui qui a placé avec le score le plus élevé, donc gagnant Valls, de France. Et mieux même, en fait. C'est le seul département qui est misé sur Manuel Valls. Pardon. Le seul avec celui des Pyrénées-Orientales, donc deux. Bah, c'est quand même pas banal, d'autant que je connais pas l'histoire sur la longue durée du Parti Socialiste dans notre département, mais il me semble que c'est la première fois dans son histoire politique que ce département majoritairement se prononce pour un candidat présenté comme représentant l'aile droite du Parti Socialiste. Alors que dans le passé, pas très d'ailleurs lointain, c'est toujours l'aile la plus radicale, en tout cas en mots, et lors des congrès, qui a toujours été dominante dans notre cher département. Alors, il y a une raison à ça, c'est que le président du conseil départemental, j'ai oublié qu'il y avait eu une réforme.
Oui, il y en a eu une quand même.
Le président du conseil départemental, M. Viola, était dans l'équipe de Valls et a milité pour son candidat. Ce qui démontre, me semble-t-il, une influence encore importante de cette institution, le conseil départemental, dans la structuration politique du département de l'Aude. Et on peut le comprendre quand même, et surtout dans les zones rurales.
Ah ben,
parce que c'est effectivement dans les zones rurales que Manuel Valls, dans ce département, encore une fois, a fait les plus gros scores face à Hamon.
Exact. Hamon fait un tabac en ville, si on peut dire.
Hamon, évidemment, fait un tabac dans les zones urbaines. Et alors, j'explique comment. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, bon, je la donne, les auditeurs en feront ce qu'ils voudront. C'est que le conseil départemental, dont le président est André Viola, qui lui-même était le supporteur numéro 1 de Manuel Valls, joue un rôle dans le département, notamment à travers ses réseaux et ses financements en zone rurale, encore très important. hein, les collèges, hein, les aménagements de villages, les créations de salles polyvalentes dans les villages, les financements du fonctionnement des foyers ruraux. Enfin bon, bref, j'arrête là la liste, hein, de tous ces programmes de fonctionnement, indépendamment des routes et de l'action sociale, qui sont les deux grandes compétences de ces institutions. Bon, à travers ce genre de petits...
Donc il y a véritablement encore une force importante.
Encore une force politique, et qui explique peut-être aussi un certain conservatisme dans la gestion économique et sociale de ce département. Et à l'inverse, donc, Hamon, lui, fait un gros score, en fait, dans les zones urbaines, là où se concentre, c'est pas par hasard, non seulement la plus grande part de la population départementale, mais aussi, conséquemment, le plus grand nombre d'électeurs, mais aussi, en fait, et surtout peut-être, où se concentrent les plus grandes zones de pauvreté, hein, de ce département. Et comme par hasard, c'est dans ces zones-là aussi, hein, que l'on constate que le Front National fait les scores les plus élevés. Alors moi, j'y vois l'indice, effectivement, d'une polarisation sur les extrêmes dans ces zones urbaines, là, très, que je viens de rapidement de présenter, le Carcassonnais, en fait, et le Narbonnais, et qui peut-être donne quelques indications sur les prochaines élections à la fois présidentielles et législative. Voilà ce que je voulais tout simplement faire observer, et tirer comme petite leçon, qui valent ce qu'elles valent évidemment, de cette dernière primaire citoyenne dans le département de l'Aude, cher Jean-Claude.
Cela est fait. Alors cette primaire, c'est pour les présidentielles qui vont avoir lieu, mais parallèlement, on sait que derrière les présidentielles se profilent toujours des législatives, et alors là, on voit tout d'un coup les personnages éclore.
Oui, alors avant d'y venir, simplement, on peut observer que même si Hamon a gagné, en fait, au plan national, et on pourrait dire, mais que vont devenir, en fait, les élus Narbonnais, en fait, les Carcassonnais qui ont défendu la candidature de Valls. Bon, les Viola, les Sainte-Cluc, en fait, et autres, bon, Narbonnais, en fait, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais contrairement à ce que pense Pérez, je ne crois pas du tout qu'il y ait une cassure du Parti Socialiste, hein, qui, en deux, une partie qui irait chez Macron et l'autre qui saboterait en interne le PS, pas du tout. Parce que tout simplement, l'intérêt objectif, hein, de tous ces élus est effectivement de conserver le parti en l'état, de faire le dos rond, et même si au passage, bon, ils devront avaler leur chapeau et voilà, avoir quelques difficultés de digestion idéologique.
Au moins pour cette élection-ci, verra le résultat et on en reparlera dans quelques temps.
Et alors donc depuis, effectivement, on voit apparaître une floraison maintenant de petites candidatures, enfin petites candidatures, non, hein, on a la secoue, on a le fameux Daro de Carcassonne qui descend sur Narbonne.
Là, pour, oui.
Avec la carte de Marine Le Pen, un radical qui se retrouve sous l'égide de Marine Le Pen, ça fait rêver quand même, hein, le cas idéologique est particulièrement
comme disait l'autre, ça donne des vertiges idéologiques.
Oui, oui, autant qu'on en prend accessoirement qu'il s'est fait virer du Grand Orient de France. Bon, tout ça est étrange, curieux.
Il y a de quoi être désorienté.
Malsain, oui, effectivement, il y a de quoi être désorienté idéologiquement, moralement, philosophiquement, tout ce que tu voudras. Hein. Puis, dernièrement, on apprend que Ronolos, que quelques-uns d'entre nous connaissent, hein, parce que on le connaît, Ronolos, il a travaillé comme... au cabinet Jacques Bascou.
À une époque, oui.
Et à l'époque, il est présentement, il ne sera pas vexé dans un placard de la ville de Narbonne parce qu'il n'a pas été amené par Jacques Bascou à l'aglo. Et je crois savoir qu'il en a quelques ressentiments.
Oui, c'est possible. Hein,
quelques ressentiments. Et donc j'apprends, comme toi, qu'il était candidat, lui, pour le mouvement que je ne connaissais pas.
Nouvelle donne. C'est une nouvelle donne pour nous aussi.
Quel est le sens de cet engagement? Est-ce que c'est vraiment une conviction politique affirmée? Y a-t-il pas derrière des règlements de compte avec le Parti Socialiste, etc. D'autant que, curieusement, il se présente comme le candidat qui est tout à fait en phase avec le programme de Monsieur Hamon, et en contestant Marianne Fabre, qui sera la candidate du Parti Socialiste, et donc de Monsieur Hamon pour la présidentielle, elle aussi, effectivement, défendra ses couleurs. Alors, bon, conclusion, pour ma part, je n'y comprends rien. Enfin, en tout cas, bon, je ne comprends pas le sens de ces candidatures-là, dans ce contexte, et en tout cas, ce référencement à Hamon. Arrive aussi, j'en dis deux mots, enfin, plus que deux mots d'ailleurs, parce que j'ai été touché par la manière dont ce candidat, en fait, s'est présenté à moi. Je m'y attendais pas du tout. Je ne suis pas journaliste, mais enfin, bon, on m'invite à une conférence de presse, je pouvais pas y aller. Et très gentiment, le candidat de France Insoumise, m'a invité à prendre un café à la place des Quatre Fontaines. Donc, je ne pouvais décemment pas la moindre des courtoisies, ne pas répondre à son invitation. J'y suis allé, effectivement, je suis tombé sur un garçon que j'avais croisé dans ma vie professionnelle à Sète, quand il travaillait, plutôt quand il était élu au conseil municipal de Sète, à l'époque où François Liberty en était le maire, et qui est pareil, et que j'avais aussi croisé à la chambre de commerce de Narbonne, parce qu'il gérait un camping et était président d'une commission des finances, et qui, un garçon, ma foi, avec sympathique, qui a des convictions, et qui, bon, voilà, aura lui aussi quelques difficultés dans ses relations avec le Parti communiste français, qui, lui, n'entend pas
probablement
se retrouver derrière lui.
Mais ces questions-là, tu pourras les lui poser prochainement, puisqu'il fera partie des invités de Radio Barque dans les semaines qui viennent.
Je publierai d'ailleurs un billet, cette candidature.
On marque une première pause.